est absolument essentiel.
Oui, absolument.
Absolument pas. Absolument.
Essentiel. Une émission présentée par Thomas Lacombe.
On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince. Bonjour, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour un quatrième numéro de votre émission d'entretien culturel sur Transistor. Cette semaine, mon invité est une journaliste. Mon invité connaît bien la radio, puisqu'elle y a commencé sa carrière, notamment sur Ça bouge dans ma tête, Radio Nova ou RTL. Mon invité est une des meilleures critiques de cinéma. Mon invité anime depuis 2012 le 28 minutes d'Arte. Mon invité, c'est Elisabeth Quin. Elle m'a reçu dans sa loge avant un enregistrement de son émission d'actualité quotidienne pour la chaîne franco-allemande. Et ce qu'elle a à nous dire est absolument essentiel. Rencontre. Bonjour Elisabeth Quin.
Bonjour Thomas.
Alors depuis 2012, vous présentez le 28 minutes d'Arte, une émission d'actualité qui ne ressemble à aucune autre dans le PAF, le fameux paysage audiovisuel français. De la fameuse expression « le poids des mots, le choc des photos » pour 28 minutes, on retiendrait surtout le poids des mots, ou plutôt la façon dont sont pesés les mots, puisque votre émission, elle fait la part belle à l'analyse, au débat, à la parole. Peu d'images, c'est un petit peu la marque de fabrique de l'émission.
L'émission a eu deux périodes.
Ouais.
L'émission a eu une première période que nous appelons avec le recul la période radicale, de la radicalité pure, où nous avions décidé de faire une sorte de France Culture filmée, c'est-à-dire pas du tout d'images, et exclusivement des experts, des chercheurs, les gens les plus pointus intellectuellement, et des acteurs de la culture qui venaient passer au tamis l'actualité, passer au tamis de leur vision du monde l'actualité. Donc c'était relativement perché, pour parler comme les jeunes, et ça ne fonctionnait absolument pas. Dans la deuxième étape de l'émission, on n'a pas obéi à des contraintes économiques, mais on a cherché une contre-programmation à proposer en face des journaux télévisés. Et on s'est dit, comme le journal télévisé est le lieu de l'enchaînement sans hiérarchie et sans recul des images et des séquences d'images, on va fabriquer quelque chose qui sera avec assez peu d'images, assez peu de reportages faits par nous, mais énormément d'analyses et de prises de parole pour revenir en profondeur sur l'actualité, sur un ou deux événements par jour, et non pas sur 10 événements vus par l'image et par le petit train-train, l'épouvantable petit chemin de fer qui déroule les images d'actualité.
Alors Guy Debord a écrit de très belles pages sur la société du spectacle. Vous pensez, Elisabeth Quin, que le traitement de l'information, que ce soit sur les chaînes d'infos en continu, mais aussi dans les grands messes des JT dont vous parliez à l'instant, il est trop spectaculaire, ce traitement de l'information?
Oui, mais c'est consubstantiel à la télévision. C'est-à-dire que la télévision, c'est par définition du spectacle, et ça joue sur quelque chose qui est plus du registre émotionnel chez le spectateur que du... c'est-à-dire ça va chercher l'émotion plus que la ratio, la raison. Donc à partir de là, sauf à avoir la chance de travailler sur une chaîne comme Arte qui préfère faire appel à la raison, l'émotion vient en renfort, en auxiliaire de la raison. Sinon, partout ailleurs, le traitement de l'information, il est avant tout spectaculaire. Et je dirais que les chaînes sont à la fois responsables et non coupables. Il faudrait incriminer tout le média télévisuel. Mais ça n'est pas juste les chaînes françaises, c'est tout le média en soi qui est comme ça.
D'où l'idée de contre-programmation. Oui,
d'où l'idée de contre-programmation et de contre-proposition. Donc c'était une sorte d'expérience de laboratoire. On était les docteurs Frankenstein fous et fauchés d'Arte. On a eu de la chance parce qu'on ne s'est pas trompé sur ce coup-là.
Et aujourd'hui, ça fonctionne puisque...
Aujourd'hui, ça fonctionne très bien.
battez des records d'audience. Le 23 novembre, vous avez fait jusqu'à 700 000 téléspectateurs.
706 000 téléspectateurs avec une émission qui était relativement austère. Un juge qui venait délivrer moitié lanceur d'alerte et moitié juge de l'antiterrorisme.
Oui, on rappelle Trévidic, c'est pas n'importe quel juge.
Qui venait faire à la fois l'oiseau de malheur, l'oracle et l'analyste a posteriori des attentats du 13 novembre. Et puis après, un débat autour de toujours ces attentats, mais...
Alors justement, à propos de ces attentats, on parlait du côté spectaculaire, on parlait du choc des photos. On a tous en tête les éditions spéciales qui ont eu lieu à propos de ces attentats de Paris du 13 novembre dernier.
Non, et mais ces la images... télévision française était une édition spéciale. Il n'y avait plus d'édition spéciale. Tout était en boucle.
Et tout était normalisé sur une seule même format d'émission spéciale où on voyait des photos de victimes, des photos de terroristes, des vidéos à la limite même de l'horreur et de la décence, celle du Bataclan, enfin la fuite du Bataclan, les corps même dans les draps blancs qui sortent du Bataclan. Comment on fait, Elisabeth Quint, puisque vous mettez en avant, vous, votre contre-programmation, pour traiter de cette information qui est au départ spectaculaire, qui est au départ horrible, de s'en rajouter au spectaculaire et au pathétique?
Mais en ne diffusant pas d'image, tout simplement. Voilà, c'est une gageure et c'est un choix. Je vais pas rentrer dans des considérations qui sont des truismes, mais l'éthique et l'esthétique, c'est souvent mêlé. Alors, je ne veux pas dire que tout ça soit esthétique, ou alors on est dans une esthétique horrifique de l'horreur. Mais le choix éthique, il est de ne pas diffuser d'images. À la rigueur, l'image intéressante, c'était l'image qu'avait filmé le journaliste du Monde, Daniel Pseny, qui a été blessé lui-même et qui filmait du haut de sa maison, enfin du haut de son appartement, ce qui se passait dans la ruelle en contrebas. Ce qui surajoutait en effet Hollywood du pauvre, puisqu'il filmait en plongée, comme ça. Donc il y avait un effet absolument dramatique et spectaculaire, mais un peu au rabais. Ça, c'était une image intéressante, parce que l'émetteur, enfin celui qui fabriquait l'image, est un journaliste qui est vraiment dans la réflexion en temps normal, qui est Pseny. Mais nous, on n'a pas diffusé d'image. Aucune. Donc on a seulement reçu en plateau des gens qui n'étaient pas des survivants ou des témoins directs. On n'a pas joué ce jeu-là, on ne le joue jamais.
Ça, c'est le jeu du pathétique.
C'est le jeu de l'émotion. Je ne veux pas porter de jugement moral. D'abord parce que la situation est trop déchirante et grave. Et en ce qui concerne aujourd'hui, ici et maintenant, et puis par rapport au futur, je ne porte pas de jugement de valeur, je ne veux pas juger moralement ce que font les autres, je veux juste parler d'éthique. Oui. Nous n'avons pas voulu montrer d'image, ce type d'image, et nous n'avons pas reçu ni de survivants, ni de miraculés, entre guillemets, ni de témoins directs. Nous n'avons reçu que des islamologues, des philosophes, des chercheurs, des gens qui pensent et qui réfléchissent à la question de la société française, des origines de ce qui s'est passé, des conséquences de ce qui s'est passé. Voilà.
Alors on parle d'éthique, le journalisme, c'est aussi de l'engagement?
Moi, je n'irai pas jusque-là parce que je suis sans doute un peu trop ligotée par la hantise de l'imposture et une humilité qui peut avoir l'air d'être une pose et qui ne l'est pas. Donc, non, moi, je ne suis absolument pas une journaliste engagée. Enfin, tous les journalistes vont vous dire, mais oui, bien sûr, je suis républicain, je suis du côté des valeurs de la vie, de la démocratie, etc. Oui, mais enfin, ça, pardon, c'est le minimum syndical. Sinon, on est militant politique, voilà, on va au FN ou on va chez Mélenchon. Mais engagé, ça ne veut rien dire. Je ne sais pas comment répondre à votre question.
Alors moi, j'ai peut-être une réponse à vous proposer. Ouais. Votre engagement dans 28 minutes, ça pourrait peut-être être, vous me direz, celui justement de vous extraire du flot de l'actualité pour évoquer des sujets, des régions du monde, des thèmes qui sont rarement traités ailleurs. Vous avez parfois l'impression de prendre la contre-allée, comme le chantait Alain Bashung. Et pourquoi?
Beaucoup Alain Bashung. Pourquoi? Parce que tout est formaté et la pensée unique au sens non politique... qu'on lui attribue généralement par ailleurs. La pensée unique, ça peut être effectivement de ne parler que des mêmes sujets, des mêmes pays, des mêmes zones d'intérêt, en laissant de côté tout ce qui n'est pas dans l'actualité immédiate. Donc oui, le Pakistan nous intéresse, le Yémen nous intéresse, le Brésil nous intéresse. Quand on n'en parle pas, nous, on en parle. Enfin, tout ce qui est... Oui, c'est ça. L'idée de faire une sorte d'école buissonnière pour aller porter le projecteur ailleurs, sachant que ça a du sens parce que tout est inextricablement liées, ça s'appelle la mondialisation. Donc tout étant lié, ne pas perdre de vue les zones périphériques qui, un jour ou l'autre, se retrouvent au centre, d'une manière ou d'une autre. Il est intéressant d'avoir toujours un peu un œil comme ça aux alentours.
Pierre Vell se disait des lieux et des liens. Mm-hmm. Vous ne pensez pas que tout ce que vous me dites, à l'instant, ce n'est pas de l'engagement ?
Si vous le dites. Je préfère que ce soit le regardeur ou celui qui reçoit qui le dise plutôt que moi. Voilà.
On parle d'engagement, c'est sûr, pour ma part. Mm. Or, dans la dialectique actuelle, ce qu'on oppose souvent à engagement, c'est neutralité. Mm-hmm. Alors vous, dans votre émission, vous avez un autre terme qui est radicalement différent, c'est pluralité. Tous les jours, vous êtes accompagné d'un co-intervieweur. Ouais. J'en cite quelques-uns, Guillaume Roquette du Figaro Magazine, Arnaud Le Parmentier du Monde, Renaud Dely de l'Obs. Ils appartiennent à des organes de presse différents, à des familles de pensées différentes, à des sensibilités même politiques différentes. Mm-hmm. C'est important cette pluralité au quotidien ?
Ah ben oui, la neutralité, moi je ne la conçois que dans le rapport à la psychanalyse, la neutralité bienveillante du psychanalyste. Enfin sinon la neutralité n'existe pas. Là, dans ce qu'on fait, elle serait même synonyme de vision asthénique ou d'incapacité à faire... justement, vous parliez de dialectique, à faire surgir les nœuds d'une réflexion ou les contradictions ou les paradoxes d'une attitude, qu'elle soit politique ou sociétale ou autre. Donc oui, on tient énormément à avoir pluralité, une diversité. Allons pour la diversité des opinions. Pluralité...
Et pourtant, il y a certains médias, puisqu'on parle aussi de ça, du traitement de l'information, qui, eux, revendiquent une forme d'objectivité.
À lesquels ?
Par exemple, des chaînes d'infos en continu
pensent que le flot des images assure la neutralité, l'impartialité et l'objectivité. Voilà. Ils n'ont pas réfléchi à ce que c'était qu'une image. On les renvoie à Didier Huberman, à Godard et à toutes sortes d'autres théoriciens ou praticiens, voire même cliniciens de l'image.
C'est ça le problème aujourd'hui dans le traitement des médias, c'est qu'on donne et on ne réfléchit pas à ce qu'on donne.
Oui, je pense. Je pense que les gens dans les chaînes, les gens qui fabriquent ces flux d'images n'ont pas le recul nécessaire, mais encore une fois, je ne suis pas sûre qu'ils soient responsables, en tout cas qu'ils soient coupables, ils sont responsables, mais vous savez, faire 24 heures sur 24 ou 12 heures sur 24 des images, tenter de les hiérarchiser un tant soit peu, c'est extrêmement chronophage et ça... bouffe tout le temps de cerveau, comme disait Étienne Mougette, disponible. Donc voilà, ces gens-là ne peuvent pas et n'ont pas le temps de réfléchir à ce qu'il y a en amont de leurs images.
D'où le primat de la parole,
peut-être. Oui, le primat de la parole.
Ce poids des mots, c'est peut-être d'ailleurs un héritage en ce qui vous concerne, celui de la radio, média par lequel vous avez débuté votre carrière, Elisabeth Quint, d'abord sur Ça bouge dans ma tête, qui était la radio FM associative de SOS Racisme, créée en 1986. Puis vous avez aussi fréquenté Radio Nova, RTL, entre autres. Si vous aviez un mot ou plusieurs mots, puisqu'on parle du poids des mots, pour définir la radio, ce seraient lesquels ?
L'imaginaire. Bah oui, l'imaginaire, puisque vous n'avez pas d'image. Donc vous avez l'espace, il se libère un espace propice au travail de l'imaginaire en ce qui concerne l'auditeur, qui peut fantasmer, imaginer, se créer un univers à partir d'une simple parole. Qui parle à la radio ? Qui parle ? Quelqu'un que je ne vois pas, donc quelqu'un que j'imagine, forcément. Ça change tout.
À vous entendre, on a presque l'impression
que j'ai la nostalgie de la radio.
Qu'il y a une nostalgie
de
votre part.
Oui, bien sûr. Oui, j'aime beaucoup la télévision, mais je garderai, je conserverai toujours une forme de nostalgie extrêmement vivace pour ça, pour ce rapport qui est beaucoup plus romanesque, à mon sens, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus passionnant, beaucoup plus riche, qui est le rapport entre la personne qui parle et la personne qui écoute.
Je vous écoute parler et vous parlez de romanesque, vous dites qui parle, on est presque dans des questions littéraires. Dénonciation ?
Oui, qui parle des questions littéraires ou des questions qu'on peut entendre poser sur un divan de psychanalyste. Oui, qui parle, d'où ça parle, ou d'où parle-je, ou qui est-ce qui parle en moi quand c'est ce que je crois être je qui parle. Oui, bien sûr. Oui. Mais tout ça se joue, mais de manière spontanée, joyeuse, un peu anarchique, que l'on fasse de la télévision, mais surtout que l'on fasse de la radio. Moi, c'est pour ça que ça m'intéressait beaucoup, la radio.
Alors, vous dites... imaginaire, opposé à image, les images à la télévision, elles cassent l'imaginaire ?
Non, je ne pense pas qu'elles cassent l'imaginaire, mais elles font écran à la possibilité de développer comme des cumulonimbus d'imaginaire. Voilà, il y a une espèce d'écran, on vous propose une image, il faut une énorme force de caractère, une énorme volonté et une vraie détermination dans l'imaginaire pour fabriquer des images derrière cet écran d'images qu'on vous impose. Ça, je le crois absolument.
On parle de radio, à la radio, justement, sur RTL, notamment aux côtés de Remo Forlani. Vous êtes devenue une des références en matière de critique cinéma. Vous avez ensuite exercé ces talents dans des émissions télévisées, que ce soit en tant que collaboratrice ou animatrice. Vous avez une émission quotidienne aujourd'hui. Vous avez quand même le temps d'aller au cinéma ?
Non, plus tellement, à vrai dire. J'ai même traversé une phase de refus d'obstacles il y a 4 ans, après avoir travaillé pendant 20 ans effectivement dans, moi je dirais plutôt vers le commentaire cinématographique plus que la critique, parce qu'il me semble que la presse écrite est le lieu vraiment idéal et naturel de la critique, c'est-à-dire le temps de développer une critique cinématographique, c'est pas la télévision. La télévision, on propose des pistes. Bon, j'ai fait ça pendant 20 ans, et quand j'ai arrêté pour venir animer cette émission sur Arte et prendre en charge cette émission, je pouvais plus aller au Festival de Cannes, je pouvais plus aller à Dinard, je pouvais plus aller dans tous les festivals où j'avais l'habitude d'aller, et il y a quelque chose de très radical qui s'est mis en place, c'est-à-dire le refus. C'était ou tout ou rien. Donc il n'était plus question de pratiquer la cinéphilie comme une provinciale qui vient une fois par semaine à Saint-Germain.
Et là aussi, voilà. La nostalgie
J'ai la nostalgie, oui, j'ai la nostalgie de la boulimie, qui est celle du cinéphile, c'est-à-dire voir 2, 3, 4 films par jour. Ça comble quelque chose en soi, évidemment. Tous les cinéphiles, je pense, sont des gens qui ont des énormes failles à combler. Il n'y a pas d'autre explication possible. Mais oui, j'ai la nostalgie de ça. La nostalgie de ces manques, que je n'éprouve plus, sans doute aussi.
Alors, vous ne les éprouvez plus, peut-être tant mieux.
Ouais.
Mais quel est le dernier film que vous avez pu voir, même si vous n'en voyez plus beaucoup ?
Ah, mais le dernier film que j'ai vu, il n'est pas du tout un film... Ah, contemporain,
c'est-à-dire ah, oui.
Ah non, parce que là, j'allais vous dire, j'ai revu Le Cid.
Ah
enfin,
oui,
bon.
Non.
Avec Sophia Loren, donc c'est un peu vieux. Le dernier film contemporain que j'ai vu, je crois que c'est Sicario, de Denis Villeneuve, dont j'avais pas mal aimé un film qu'il avait fait autour du Liban et d'une quête d'identité. Et là, j'ai trouvé ça un peu... ouais, il y avait 2-3 rodomontades dans la facture, mais je trouvais ça pas mal. Il y avait des scènes assez viriles, de poursuites en bagnole, et il y a des vrais moments plastiques assez jouissifs. Pas mal, voilà.
Pas mal, à retenir. Vous êtes consciente, et peut-être même fière, d'être une des critiques, voire la critique qui a popularisé en France le cinéma asiatique, mais surtout Wong Kar-wai.
Ah oui, oui, vous me le dites. Très franchement, vous entendre, vous qui pourriez être mon petit-fils, presque, me le dire, ça me fait très très plaisir. Parce que oui, c'était...
C'est vrai ?
Ouais, c'est vrai. Ah ouais, alors ça me fait très plaisir. Oui, on a eu une passion, mais moi et une génération, hein, on a eu une passion absolue pour le Wong Kar-wai de la première époque, hein, pas le Wong Kar-wai de My Blueberry Nights,
oui,
qui était là, il était boursouflé, baroque, kitsch. Enfin là, il était dépassé par lui-même et enseveli sous ses tics.
On précise,
de fabrication, hein. Donc on précise
Hong Kong,
Happy Together,
97.
Chungking Express, voilà, c'est-à-dire le moment d'ailleurs de la rétrocession, c'est-à-dire un cinéma qui s'est présenté à nous au moment exact où il se jouait un truc vraiment intéressant entre modernité, tradition et puis cette espèce de rétrocession politique qui a été un déchirement et en même temps une source de renaissance pour eux. Et là, il y a eu l'émergence de ce cinéma. Hong Kong, on connaissait avant le cinéma de Hong Kong. Il y avait les frères Shaw, tout ce que produisaient les Shaw Brothers et tout. Mais Wong Kar-wai a été une espèce d'apparition comme ça, extraordinaire.
Et 97.
Et toute ma génération a été époustouflée par ça. Ouais.
Prix de la mise en scène à Cannes.
Ouais.
Et à vous entendre, cette période-là de Wong Kar-wai, toujours passionnée.
Passionnante. Ah oui, complètement
passionnante. Mais vous, passionnée.
Ah oui, moi, complètement passionnée. Oui, oui, le suivant. Enfin bon, mais oui, oui, bien sûr. Et puis de lui, tout d'un coup, une espèce de prise de conscience qu'il se passait quelque chose en Asie avec le cinéma. Et c'est pas seulement Hong Kong, c'était aussi la Chine pop, c'était aussi la Corée du Sud, mais ça a été un peu plus tard. Il y a eu une prise de conscience, enfin, tout notre intérêt s'est déplacé vers le cinéma asiatique, et ça a été vraiment une histoire générationnelle. Je me souviens de Happy Together, Chungking Express, In the Mood for Love, qui a été une espèce d'acmé, comme ça, esthétique, et déjà, le film le film recelait déjà la fin de Wong Kar-wai, c'est-à-dire qu'il était tellement parfait que ce film évoquait une fin qui était sa fin propre. On ne le savait pas, mais je l'ai revu il n'y a pas longtemps, et c'est très sensible dans le film.
Énormément de passion en vous entendant.
Ouais.
Il y a cette même passion pour traiter de sujets d'actualité.
C'est pas la même chose.
C'est pas la même chose, mais...
L'actualité ne me console pas, l'actualité n'a pas cette vertu à la fois consolatoire et inspirante et bouleversante. L'actualité est anxiogène, en ce moment avant tout et peut-être même après tout. Après, ça sera de l'histoire.
Deux questions en guise de conclusion, elles sont liées au titre de l'émission. Qu'est-ce qui est absolument essentiel dans le journalisme, Elisabeth Quint ?
C'est rigolo, je ne pensais pas que vous alliez me poser cette question, mais je repensais, avant que vous veniez, et par rapport à tout ce qui nous travaille et qui travaille le monde en ce moment, je repensais à une phrase de Paul Valéry qui disait « Non pas les civilisations sont mortelles, mais les hommes savent ce qu'ils font, mais ne savent pas ce que fait ce qu'ils font. » Eh bien, je me demande si le travail de journaliste n'est pas d'essayer de comprendre ou d'éclairer ou de mieux faire comprendre ce que fait, ce que font les hommes. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, tout à fait.
Voilà, d'être dans cette espèce d'approche-là. Voilà. Après tout, ça serait une bonne
découverte. Et dans la vie, qu'est-ce qui est absolument essentiel ?
Pour moi ?
Oui.
Bah, la littérature, avant tout.
Et le cinéma ?
En deux.
En deux.
Ah, mais avant tout, la littérature, la lecture, voilà. La lecture, la position du lecteur couché.
Donc voilà, c'est sur cette image qu'on va vous laisser. Merci, Elisabeth Quint.
Merci.
Vendredi à 20h05. Merci à Laetitia Bangolahi qui a permis à l'entretien d'avoir lieu et à la productrice de l'émission, Sandrine Ben, pour son accueil et le tour du studio. Un grand merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel entretien culturel sur les ondes de Transistor. Et d'ici là, surtout, n'oubliez pas l'essentiel.